Sur Radio Alpa, 107.3 FM Le Mans, et c'est Clap Clap, l'émission hebdomadaire consacrée à l'actualité cinématographique des écrans Manceau, avec autour des micros Pierre Barry.
Bonjour.
Bonjour Pierre et Michel Lafont. Cette nouveauté cette semaine à l'affiche, qu'est-ce qu'on a tous fait au bon Dieu? En même temps, inexorable à la folie, les Bad Guys, Contes du hasard et autres fantaisies, et Abuela, voilà. Donc une semaine pas trop chargée en nombre de sorties, mais des films intéressants malgré tout. Et pour la programmation musicale, eh bien, je suis allé picorer dans plusieurs films. Et on va commencer par un titre que vous connaissez forcément. J'aime les filles, Jacques Dutronc. Mmh. Et ce J'aime les filles, Jacques Dutronc, on l'entend sur le générique de fin du film En même temps de Kervern et de Lépine. Mais là, vous allez l'écouter sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans.
Années 60.
Oui.
Castel, j'aime les filles de chez Régine, j'aime les filles qu'on voit dans elle, j'aime les filles des magazines, j'aime les filles de chez Renault, j'aime les filles de chez Citroën, j'aime les filles des hauts fourneaux. Papa, j'aime les filles de l'autre, j'aime les filles sans papa, j'aime les filles de Megève, j'aime les filles de Saint-Tropez, j'aime les filles qui font la grève. J'aime les filles de Camaret, j'aime les filles intellectuelles, j'aime les filles pour marrer, j'aime les filles qui font vieille France, j'aime les filles de cinéma, j'aime les filles de l'assistance, j'aime les filles dans l'embarras. Comme si téléphonez-moi. Si vous êtes comme ça, téléphonez-moi. Si vous êtes comme si téléphonez-moi.
Jacques Dutronc, J'aime les filles, un titre que l'on entend sur le générique de fin dans En même temps, et Jacques Dutronc, eh bien, mon grand désespoir ne viendra pas au Mans. Il devait venir en février 2023, mais ça a été annulé. Il devait venir avec son fils, puisqu'il faut tourner
Thomas.
Ensemble. Et la tournée, finalement, s'arrête en décembre 22. Donc, nous n'y étions pas, puisque nous sommes c'était prévu en février.
Mm-hmm.
Donc, on pourra le voir dans plein de festivals cet été, hein, bien sûr, mais je crois qu'on peut le voir même à Angers, d'ailleurs. Je crois que la date à Angers est maintenue. Enfin, voilà. Bon, bref. Qu'est-ce qu'on a tous fait au bon Dieu? C'est le titre du film dont nous allons parler tout de suite. C'est un film qu'on peut voir au Pathé Quinconce, au Méga CGR, au Colisée. C'est un film de Philippe de Chauveron, réalisateur, scénariste et dialoguiste né en 65. 99, son premier long-métrage, c'était Les Parasites, avec Lionel Abelansky et Admen Khelif. 2004, L'amour aux trousses avec Jean Dujardin, Pascal Elbé et Katharina Murino. 2010, l'élève du COBU avec Elise Moon. Il y aura un élève du COBU bientôt d'ailleurs, je crois, qui est prévu en juin, réalisé par Elise Moon justement. 2011, les vacances du COBU, toujours avec Elise Moon bien sûr. 2014, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu avec donc Claire, Chantal Lobby et Christian Clavier. 2016, débarquement immédiat avec Harry Habitant et Mehdi Sanoun, qu'on retrouve bien entendu dans la saga du bon Dieu. 2017, à bras ouverts avec Christian Clavier, Harry Habitant et Elsa Silberstein. 2019, qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu. Et donc là, c'est le troisième opus, qu'est-ce qu'on a tous fait au bon Dieu. La durée du film, 1h38. Ce sont bientôt les 40 ans de mariage de Claude et Marie Verneuil. Pour cette occasion, leurs quatre filles décident d'organiser une grande fête surprise dans la maison familiale de Chinon et d'y inviter les parents de chacun des gendres pour quelques jours. Claude et Marie vont devoir accueillir sous leur toit les parents de Rachid, David, Chao et Charles. Ce séjour familial, entre guillemets, s'annonce mouvementé. La revue de presse, c'est ou l'un ou tout l'autre. Hein. On a aimé ou on a détesté. Voilà, alors pour ceux qui ont aimé, c'est Le Parisien. Enlevé, bourré de rebondissements, le film nous régale en épinglant les préjugés racistes de Claude Verneuil, mais aussi de ses gendres et même des parents de ces derniers. Plus efficace que les deux premiers bons dieux, ce troisième opus pourrait convertir les plus sceptiques. Jean-Luc Vachtozen, Le Point, les rires fusent et tout le monde devient finalement le raciste de l'autre. Morale de l'histoire, on peut rire de tout, à condition d'avoir le ton juste. Ça, c'est pour ceux qui ont aimé, ceux qui ont détesté, il y en a aussi. Hein. Corinne Renaud-Nativelle-Lacroix, ce troisième volet reprend les recettes, souvent douteuses, qui ont fait le succès des deux premières comédies en France et à l'étranger. Véronique Coapé, Le Monde, la cohabitation ainsi démultipliée apporte son renfort de stéréotypes, de rancœur, d'affrontements et de mauvaise foi. De quoi créer de la pagaille, mais une pagaille qui s'essouffle à force de tourner en rond et d'exploiter les mêmes ingrédients, et au final, ne fait plus rire du tout. Oh. Fabrice Leclerc, Paris Match, un dernier volet poussif. Et je garde le dernier pour la fin, c'est Télérama. À force de ne vouloir pas fâcher personne, cette comédie couarde semble même craindre le rire, parfois critique, contestataire, voire politique, sans pratiquement aucun scénario, les situations vaudevillesques se figent dans l'inanité. Ça ne m'étonne pas du tout, le Télérama, sur ce genre de film. Bon, passons. Donc, c'est, moi, je trouve que c'est une sympathique comédie populaire, au bon sens du terme, fédératrice parce que consensuelle, mais moi je trouve que c'est peut-être un peu moins percutant que les deux épisodes précédents, hein, ça m'a semblé un peu moins percutant. Alors on y retrouve bien sûr la famille Verneuil au grand complet, les parents donc, les quatre filles et leur mari, plus leurs parents respectifs. En effet, les filles ont imaginé pour les 40 ans de mariage de Claude et Marie, eh bien, une grande réunion de famille où tout le monde se retrouverait. Alors pareille entreprise ne pouvait se passer sans maintes péripéties et accrochages divers et variés. Voilà, sur le thème du vivre ensemble, malgré les différences culturelles, le film est donc une comédie bon enfant, souvent drôle grâce aux antagonismes entre les différents protagonistes et surtout grâce à Christian Clavier, qui est vraiment au meilleur de sa forme en pater familias bourgeois, gentiment réac et gaffeur. Alors je sais qu'il n'est pas aimé par une bonne partie de la critique professionnelle parce qu'il est de droite, il ne s'en cache pas. Car ce sont les mêmes critiques qui détestaient Louis de Funès jadis et qui aujourd'hui l'encensent. Et donc, tout simplement, Clavier, eh bien, ce sera pareil pour lui, une fois qu'il sera mort, évidemment. Mais voilà, qui peut se targuer, à part Christian Clavier actuellement, d'un tel palmarès au box-office, hein. Je rappelle qu'il est à l'origine de la saga des Visiteurs, qu'il a quand même à son actif tout le Splendide.
Ah oui,
le Splendide. Et puis cette saga du bon Dieu, et quelques autres, hein, dans Babysitting numéro 1, et dans Babysitting numéro 2, il y est par exemple, hein, pas dans le 1, c'est Junio dans le 1, etc. etc. Bon bref, c'est comme ça, Clavier il ne plaît pas à certains, et moi je dirais qu'on passe quand même un vrai bon moment. Alors certes, c'est un film avant tout bienveillant, hein, c'est pas un humour cynique, ici le but c'est quand même de plaire à un maximum de gens sans chercher à segmenter. On évoque les préjugés racistes de tous, et pas seulement des Verneuil, mais aussi donc des gendres entre eux et de leurs parents. Hein. Donc le grand public s'y retrouvera à coup sûr, et d'ailleurs ce film, c'est le meilleur démarrage français depuis le début de l'année 2022. Ça a moins bien démarré que les deux premiers, mais c'est le meilleur démarrage français. Moi, j'ai aimé, mais je reconnais, apprécie aussi d'autres formes d'humour, plus méchants, plus corrosifs. Je répète, c'est un film grand public. Voilà, Pierre.
Ça m'a plu aussi. En fait, Quand même, j'avais quelques appréhensions en allant voir le troisième volet, parce que peur que l'humour s'effrite au fil du temps. Eh bien, pas du tout. J'ai beaucoup ri durant tout ce film au dialogue succulent, notamment porté par un excellent Christian Clavier aux côtés d'une riche distribution, représentant la famille Verneuil au grand complet. Citons entre autres Chantal Lobby, Frédéric Bell. Bien sûr, il y a quelques temps morts, mais bon, on ne peut pas rire tout le temps, même si le film ne dure 1h40. Si vous avez apprécié les deux précédents, et si, même si vous ne les avez pas vus, que vous aimez vous amuser, alors allez voir ce film sans hésiter.
Voilà, et vous pouvez aller le voir au Colisée, au Pathé Quinconce ou au Méga CGR. Voilà. En même temps, là, cette fois-ci, c'est au Pathé Quinconce, au Méga CGR, mais aussi au cinéaste où le film est même plutôt bien loti puisqu'il a droit à 2 voire 3 séances par jour. En même temps, c'est un film réalisé par le tandem Gustave Kervern et Benoît Delépine. Gustave Kervern et Benoît Delépine, ce sont des acteurs, réalisateurs, scénaristes. Le premier, Gustave Kervern, est né en 62. Benoît Delépine est un peu plus âgé, en 58. Alors, leur filmographie, en 2003, Altra. 2005, Avida. 2008, Louise Michel, où on retrouvait Yolande Moreau et Bully Lanners. 2010, Mammouth, avec Yolande Moreau, Gérard Depardieu, et Anna Mouglalis. 2011, Le Grand Soir, avec Albert Dupontel et Benoît Poulvorde. 2014, Néandertal Expérience avec Michel Houellebecq. 2016, Saint-Amour avec Depardieu, Poulvorde et Vincent Lacoste. 2018, I Feel Good avec Dujardin et Yolande Moreau. Et 2020, Effacer l'historique avec Denis Podalydès, Blanche Gardin, Corinne Maziro. Voilà la filmographie de Kervern et de Lépine en tant que réalisateur. Le film 1h46, à la veille d'un vote pour entériner la construction d'un parc de loisirs à la place d'une forêt primaire, un maire de droite, décomplexé, essaie de corrompre son confrère écologiste, mais ils se font piéger par un groupe de jeunes activistes féministes qui réussissent à les coller ensemble. Une folle nuit commence alors pour les deux hommes unis contre leur gré. Alors bon, l'histoire de forêt primaire, je ne sais pas pourquoi ils emploient ce terme. Forêt primaire, il n'y a pas de forêt primaire en France depuis bien, bien, bien longtemps. Toutes les forêts ont été reboisées, replantées, etc. Mais enfin, bon, passons, ça reste une forêt malgré tout. Petite parenthèse fermée. Le Parisien, Jonathan Cohen est à hurler de rire en macho homophobe, viandard, corrompu, qui se gare sur les places handicapées, tout comme Vincent Macaigne en écolo hypochondriaque, angoissé, sans concession, qui tire frénétiquement sur sa pipe électronique. Michael Mélinard dans L'Humanité avec un sens du rythme et un art de la réplique que n'auraient pas renié Audiard, Kervern et Delépine signent leur film le plus comique. Même si le récit peine à retomber sur ses pattes dans sa dernière partie, cette fable politique environnementale et féministe rend hommage à l'engagement dans sa part la plus ludique et la plus grisante. West France parle d'une fable satirique et drôle. Télé 7 jours Isabelle Magnier, servi par un duo irrésistible, un cru savoureux où affleure un humanisme sincère et vital qui fait un bien fou. Olivier de Brune dans Marianne, malgré ses facilités et ses répétitions, les péchés mignons du duo, en même temps entraîne le spectateur dans un grand 8 farfelu et sans jamais se prendre au sérieux, radiographie quelques tics politiques navrants du moment. La revue positive Baptiste Roux, si l'on adhère aux propos exposés, un catalogue d'intentions et une pédagogie atone ne saurait constituer à eux seuls une proposition artistique. Céline Roudin dans La Croix, le duo de réalisateurs qu'on a connu plus inspiré, c'est une comédie potache qui brasse l'air du temps politique et féministe, mais ne parvient qu'à dévider un humour un peu rance. Thomas Borès dans Première, c'est con et triste, sûrement involontaire de la part des deux cinéastes, qui n'excuse évidemment rien. Quant aux deux stars, Cohen et McCain, elles sont là, ni plus ni moins, cadenassées dans un projet qui voudrait flatter leur savoir-faire, mais produit tout l'inverse, à vite oublier. Conclut Thomas Borès dans Première. Oh, je suis quand même beaucoup, beaucoup moins sévère que le critique de Première. C'est un buddy movie, oui, anarcho-féministe. Ouais, buddy movie, parce que, bon, vous allez comprendre, anarcho-féministe. Alors, certes, un peu démago, mais quand même drôle, grâce en grande partie d'ailleurs à ces deux interprètes principaux, jouant deux hommes politiques élus locaux. L'un de droite, c'est Jonathan Cohen, démago, cynique, légèrement corrompu. L'autre, Vincent Macaigne, écolo, idéaliste, gentiment naïf. Et les deux sont forcés de cohabiter au sens plus que précis du terme, puisqu'ils sont littéralement collés l'un derrière l'autre par une jeune féministe. Si vous allez voir le film, vous verrez dans quelles circonstances ils se retrouvent collés l'un à l'autre. Le film raconte leur piètre et absurde odyssée à travers leur ville pour tenter de trouver une solution à leurs problèmes. Voilà, donc l'idée de départ est saugrenue, elle est conforme à l'univers si particulier des deux réalisateurs, mais c'est le moyen de véhiculer leur point de vue sur la politique française actuelle. Alors, c'est quoi ? Eh bien, on parle des éléments de langage des uns et des autres, les opinions des différents groupes de Français sur le monde tel qu'il est, le monde politique tel qu'il est. Voilà, donc c'est ça dont il est question dans ce film. C'est souvent bien vu, c'est plein d'ironie, souvent mordante d'ailleurs. Les deux personnages principaux sont croqués savoureusement, donc Cohen, c'est un macho véreux, sans scrupules, prêt à toutes les hypocrisies pour convaincre McCain, gentil maire écolo, intègre, de voter pour son projet de sorte de Center Park nécessitant la destruction d'une forêt, donc de sa biodiversité. Alors on voit évidemment clairement de quel côté penche le duo de réalisateurs qui développe par ailleurs un deuxième thème qui est celui du féminisme à travers un groupe de trois activistes style Femen mais sans les seins nus. Et c'est un peu le même principe que les Femen. Là, c'est un peu moins réussi. On sent qu'ils y vont avec des pincettes, hein, soucieux d'éviter de se faire taxer eux-mêmes de machisme. Voilà, bon, stylistiquement, on appréciera ou pas, avec une propension du duo à composer des plans souvent totalement décadrés, soulignant donc l'esprit loufoque de leur entreprise. Oui, c'est vrai qu'il y a des plans qui sont complètement absurdes, complètement décalés. Bon, c'est comme ça, c'est leur façon de filmer. Bref, c'est une farce politico-sociale, gentiment insolente, loufoque, déconnante, qu'on aurait pu quand même amputer, à mon avis, d'un quart d'heure, 1h46, 1h30, c'était largement suffisant. Mais bon, on peut quand même aller le voir, surtout si on apprécie Jonathan Cohen, Vincent McCain, et puis les films des Kervern, de Lépine. C'est au cinéaste, c'est au Pâté Quinconce, et c'est au Méga CGR.
Ah, ça nous fait deux films drôles.
Voilà, exactement. Alors, pas du tout dans le même genre. Hein.
Non.
Du tout, du tout. Programmation musicale, cette fois-ci, eh bien, c'est 100% de Johnny Hallyday. Alors, on n'entend pas cette version de Johnny Hallyday dans le film « Qu'est-ce qu'on a tous fait au bon Dieu ?» mais on l'entend quand même
à la fin, hein.
Par un des beaux-parents, enfin, des parents de l'un des gendres de la famille Verneuil. C'est sur Radio Alpa, 107.3 FM Le Mans, 100% de Johnny Hallyday. Et voilà, c'est parti. Donc, je sais que le démarrage est un petit peu long, parce que c'est repiqué sur le clip. Le clip se passe dans une salle de billard. Donc,
ah,
pour ça qu'on entend jouer du billard. Et voilà, ça va venir, n'inquiétez pas.
J'ai pas toujours trouvé les mots pour bercer tes rêves d'enfant. Ensemble on est devenus grands. Le bon point en double zéro, paralysé par tant d'amour, on s'apprivoise au jour le jour. Qui pouvait soigner tes blessures, guider tes pas vers le futur. À tous les signaux de détresse, dis comment j'aurais pu faire face, pris entre le feu et la glace. Au-delà de nos différences, des coups de gueule, des coups de sang, à force d'échanger nos silences. Maintenant qu'on est face à face, on se ressemble 100%. Comme si étaient sur la même longueur d'onde, les lignes de nos mains se confondent. Tu me renvoies comme un miroir, mes doutes et mes éclats de rire, la promesse d'un autre avenir. Ce qui reste en nous d'innocents, puisqu'on se comprend à présent. Peu à s'efface, on n'en garde plus qu'une trace, comme une offense au temps qui passe, au-delà de nos différences. Des coups de gueule, des coups de sang, à force d'échanger.
Johnny Hallyday, Pierre, tu me confirmes que c'est son fils David qui avait composé ça.
Hein? Ah oui, oui, j'allais le dire à l'instant.
Voilà,
oui.
Parfait. Bien, allez, 100% on l'entend, donc pas dans cette version-là, dans une version spéciale, pour le film de Qu'est-ce qu'on a tous fait au bon Dieu ?
À la fin, oui.
À la fin. Inexorable, Inexorable, c'est proposé par les cinéastes, une ou deux séances par jour, pour ce film de Fabrice Duvels, réalisateur, scénariste, producteur belge, né en 72. Qui avait commencé par le court-métrage, et puis en 2004, Calvaire, avec Laurent Lucas, Jackie Berroyer, Philippe Naon, 2008, Vignane, avec Emmanuel Béard, Rufus Sewell, 2014, Colt 45, avec Gérard Lanvin, Joe Star, Alistair Guillonny, 2014, Alléluia, avec Laurent Lucas, 2017, Message from the King, avec Chadwick Boseman, et 2020, Adoration, avec déjà Benoît Poulvorde. Je dis déjà parce qu'on retrouve Benoît Poulvorde dans Inexorable, aux côtés de Mélanie Douté. Le film dure 1h38 et il est interdit au moins de 12 ans. À la mort de son père, éditeur célèbre, Jeanne Drahi emménage dans la demeure familiale en compagnie de son mari, Marcel Belmer, écrivain à succès, et de leur fille. Mais une étrange jeune fille, Gloria, va s'immiscer dans la vie de la famille et bouleverser l'ordre des choses. West France, Cédric Page. L'atmosphère entre Giallo italien et le Chabrol des années 70 envoûte franchement. Caroline Vier dans 20 minutes, jamais Benoît Poulvorde n'avait été aussi tragiquement bouleversant que dans Inexorable. Julien Casarino dans L'écran fantastique, la trame est connue, mais le traitement nuancé et viscéral du réalisateur, ainsi que sa toujours excellente direction d'acteur, approfondissent l'ambiguïté de personnages tous remarquablement incarnés, agités par des perversions carnassières très italiennes, jusqu'à un dénouement implacable aux résonances tragiques. Grégory Marin, dans L'humanité inexorable, porte bien son nom. Jusqu'au dénouement, le spectateur ne peut s'extraire de ce huis clos étouffant qui rappelle par moments la main sur le berceau. Stéphanie Belpech, le journal du dimanche, malgré une intrigue très balisée, le film est captivant grâce à la photographie et au travail sur le son qui entretiennent le malaise. Adrien Gombeau, Les Échos, sur le thème sans surprise de l'inconnu dans la maison, Fabrice Duvels continue d'explorer la face la plus sombre de Benoît Poulvorde. Frédéric Foubert, première. Les comédiens sont tous très investis, à commencer par un Benoît Poulvorde des grands jours, tour à tour touchant, ambigu et pathétique, qui emmène le film bien au-delà du simple exercice de style. Vous allez me dire, mais il n'y a que des gens qui ont apprécié. Mais non, mais non. Julien Barcinon dans Télé 7 jours, intriguant sans aucun doute, à défaut d'être captivant, malgré une interprétation fiévreuse. Éric Neuhoff, Le Figaro, ce thriller soi-disant horrifique, sombre vite dans le ridicule et ne réserve pas la moindre surprise. Même Poulvorde a l'air de s'ennuyer. Et nous donc ? Mathilde Blottière dans Télérama, Imposture et Fatum, ce thriller psychologique écœurant, repasse avec ses gros sabots sur les sentiers déjà 1000 fois empruntés. Là, une fois de plus, il y en a qui vont pas avec le dos de la cuillère dans leurs critiques.
Mais bon, Télérama...
On a le droit d'apprécier, on a le droit de pas apprécier un film aussi. Alors, ce film inexorable, eh bien, c'est un thriller bâti sur un postulat déjà donc bien utilisé par le passé. L'inconnu qui s'introduit dans une famille pour de mystérieuses raisons et va la détruire, cette famille, de l'intérieur. Alors ici, il s'agit d'une étrange jeune fille qui sait rapidement se rendre indispensable à un couple bourgeois. Lui, c'est un écrivain à succès. Elle, c'est son éditrice. Et leur petite fille, dont cette jeune fille devient une sorte de babysitter dans leur grande maison. En grande maison, c'est quasiment un château, hein, d'ailleurs. Tout l'enjeu du film de savoir pourquoi la jeune fille s'est introduite dans cette famille et quels secrets détient-elle qui la pousse à agir comme elle le fait. Alors, c'est pas vraiment nouveau comme thématique, ça, c'est sûr. Mais le suspense fonctionne quand même de façon efficace, pour peu qu'on accepte de se laisser porter par la curiosité, même si beaucoup de choses sont prévisibles quand on connaît ce genre. Par exemple, on sait que ça va forcément mal finir pour certains protagonistes, hein, y a aucun doute là-dessus. Poulvord est parfait, très intense, en type finalement pas très clair sur son passé, très ambigu dans son comportement. Fabrice Duvels s'est créé une atmosphère oppressante, étouffante par sa mise en scène anxiogène. Il sait faire monter la tension dans ce film sur le thème de l'imposture. Mais je ne vais pas vous dire que c'est absolument passionnant, justement parce que on a déjà vu pas mal de fois ce genre de film. Mais il y a quand même une scène qui sort de l'ordinaire, celle d'un goûter d'anniversaire, qui est quand même assez dérangeante parce que carrément punk. C'est une petite fille qui doit avoir 7-8 ans et le goûter d'anniversaire, on ne l'attendait pas comme ça. Le réalisateur se fait manifestement plaisir à créer un malaise, comme souvent dans ses précédents films. Et ce malaise, on ne le retrouvait pas forcément là. Mais là, vraiment, c'est une scène qui marque. Voilà. Donc, c'est un film qui s'appelle Inexorable, qu'on peut voir au cinéaste avec une ou deux séances par jour. C'est pas formidable, mais c'est un bon suspense malgré tout, je vous dis, pour peu qu'on veuille bien rentrer dans le film et se laisser porter par le suspense. À la folie. Alors, à la folie, cette fois-ci, on part au Colisée. Et au Colisée, pour ce film de Audrey Estrougaud. Audrey Estrougaud, réalisatrice, scénariste, productrice française. 2007, elle avait réalisé « Regarde-moi ». 2008, un documentaire qui s'appelait « Encore un printemps ». 2009, « Toi, moi et les autres » avec Leïla Bekti et Cécile Cassel. 2013, « Une histoire banale » avec Marie Denardo. 2014, oh là là, mon Dieu, « La Tollarde » avec Sophie Marceau. C'était affreux, ce film.
Ah ben j'ai aimé, moi.
T'as aimé, toi?
Oui, oui, oui.
Ah bon, Sophie Marceau, Suzanne Clément. Et puis tout récemment, en 2001, « Suprême ». Suprême, c'était sur le biopic de NTM avec Théo Christine et Sandor Funtek. Voilà, donc la filmographie d'Audrey Estrougaud. À la folie, ça dure 1h22 et c'est proposé uniquement par le Colisée. Attention, il n'y a que deux ou trois séances par jour. Faut faire attention. Pour fêter l'anniversaire de sa mère, Emmanuelle vient passer quelques jours dans la maison de son enfance. Elle y retrouve temps passé et souvenirs qui règnent dans les lieux, mais aussi sa sœur aînée, dont l'instabilité psychologique a trop souvent affecté les relations familiales. Personne ne se doute que cette fête de famille va rapidement prendre une tournure inattendue. Yves Jéglet dans Le Parisien, grand film d'acteur, tous virtuoses, alors je vais les citer, Virginie Vandrobi, Lucie Debay et Anne Cossens. Grand film d'acteur, tous virtuoses, une petite musique où la fausse note est celle de la vie qui n'a pas donné les bonnes cartes à tout le monde. Yann Tobin en positif à l'arrivée, le film convainc par son traitement tranchant, naturaliste, remarquablement travaillé dans sa manière, en particulier lors de plans séquences jouant sur l'écran large et sur l'emploi audacieux du flou net dans les gros plans. Cécile Murie dans Télérama, pleine de bonnes intentions, ce film fragile évoque assez maladroitement l'impact de la maladie sur l'entourage, un grand renfort de scènes illustratives et de dialogues pesants. Muriel Joudet, Le Monde, sur un mode binaire, le film alterne querelle et réconciliation pour aboutir à un compromis, ni avec toi, ni sans toi, qu'on voit arriver de très loin. Pas vu à la folie, parce que toutes les séances où je pouvais le voir, j'étais occupé dans d'autres films. Voilà, à la folie, c'est au Colisée pour ce film d'Audrey Estrougaud, 1h22. Les Bad Guys, par contre, alors là, c'est pas les salles qui manquent, les Bad Guys, c'est au Colisée, Oméga CGR, et au Pâté Quinconce, c'est un film d'animation, d'un Français, Pierre Périfel, un réalisateur français qui fait des films d'animation pour des studios américains, ça arrive. Pierre Périfel, c'est son premier long-métrage, il est réalisateur, mais auparavant, il était animateur, il a travaillé sur, je crois, la saga Kung Fu Panda, je crois bien. Sinon, il a, avant, réalisé des courts-métrages d'animation pour ses Bad Guys. Alors, les Bad Guys, 1h40, les Bad Guys mettent en scène une bande d'animaux redoutables criminels de haut vol qui sont sur le point de commettre leur méfait le plus éclatant, devenir des citoyens respectables. Ces cinq compères sont tristement célèbres pour l'aptitude respective au crime. Mais après des années d'incalculables méfaits, ceux qui sont devenus sans conteste les malfrats les plus recherchés du monde finissent par se faire arrêter. Monsieur Loup conclut alors un marché, qu'il n'a évidemment pas l'intention d'honorer, afin de s'éviter ainsi qu'à ses compères bien des années en prison, les bad guys vont devenir honorables. Je ne vous en dis pas plus. Je parle tout de suite de la revue de presse. Carole Nivier dans 20 minutes. Cela fonctionne, les bad guys. C'est un bonheur de film dont le rythme foisonnant entraîne le spectateur dans un festival de suspense et d'éclats de rire vivement un deuxième volet. La rédaction du Parisien éloge de la différence. Les bad guys en met plein la vue avec son graphisme très années 60. Ses scènes d'action époustouflantes tout en offrant une histoire originale, édifiante et pleine d'humour aux plus jeunes. Constantin Lacombe dans Cinématiseur, les bad guys trébuchent sur un scénario un poil trop simple, mais compensent avec son esthétique splendide et sa folle énergie. Première, Thomas Borez. Si la réalisation comme l'animation ne brille pas par leur originalité, l'efficacité est indéniable. Isabelle Magnette et Les 7 jours, rien de très original, un poil lénifiant, mais les dialogues sont savoureux et les héros franchement sympas. Enfin, Déborah Lechner dans Écran large, ou Lechner, je ne sais pas, au-delà de sa séquence d'introduction pied au plancher et des références cinématographiques qu'on s'amuse à repérer dans la première demi-heure, les bad guys restent sagement dans les clous pour suivre un déroulé mécanique et convenu malgré une identité visuelle plus singulière. Et oui, film pour les vacances, puisque les vacances commencent ça ce soir.
Oui.
Et donc, ça sera possible de voir ça au Colisée. Omega CGR, au Pathé Quinconce, tout comme la semaine dernière, il y avait Sonic 2 qui était sorti.
Ouais, qui va rester,
c'est
je pense.
Films, oui, oui, c'est sûr, c'est des films pour les vacances.
Pour les enfants, notamment. Jeune.
Voilà. Bon, eh ben, on va changer radicalement musicalement. Je ne sais pas si Pierre apprécie Nina Hagen et le punk.
Oula.
Pourtant, on entend ça dans le film de Kervern et de Lépine. C'est la chanson du générique de début. Ça s'appelle Nature Trane. Et c'est Nina Hagen sur Radio Alpa, 107.3 FM Le Mans. Ça commence doucement, mais ça va se gâter.
Offenes Fenster präsentiert Spatzenwolken, Himmel flattern, Wind bläst. Meine Nase friert und per Auspuff Rohre knattern nach. Da geht die Sonne unter, rot mit Gold, so muss das sein. Seh ich auf die Straße runter, fällt mir mein Bekannter ein. Drum wird mir's jetzt schwer ums Herz. Ich brauch nur Vögel flattern sehen. Und fliegt mein Blick dann himmelwärts, tut auch die Seele weh, wie schön Natur am Abend. Stille Stadt, verknackste Seele, Tränen rennen, das alles macht einen mächtig matt. Und ich tu einfach weiter flennen auf. Ooh, 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 ooh
Naturtrane Ninagen, un titre que l'on entend sur le générique du film, le générique de début du film, en même temps. Ça fait longtemps que j'ai pas entendu de nouvelles de Ninagen. Tu n'en as pas, toi, Pierre?
Non, c'est pas mon traumatasse de thé, ce genre de chanson.
C'est pas, peut-être.
Non, j'ai pas de nouvelles.
Bon, tant pis. Donc, Conte du hasard et autres fantaisies. Conte du hasard et autres fantaisies, c'est au cinéaste. Ça dure 2 heures. Il y a 2 séances par jour pour ce film de Ryusuke Hamaguchi, réalisateur scénariste japonais né en 78, qui a le vent en poupe puisqu'il vient de recevoir l'Oscar du meilleur film étranger en 2022 pour le film sorti en 2021, Drive My Car. Auparavant, il a réalisé un certain nombre de films restés inédits en France, ou alors quand ils sortent beaucoup plus tard après leur réalisation. C'est par exemple ainsi, en 2015, il avait réalisé Senses 1, 2, 3, 4, 5, et Senses est sorti, je crois, il y a 2 ans en France. De même que Asako 1 et 2, qui avait été réalisé en 2018, qui est sorti beaucoup plus récemment, me semble-t-il. Voilà, ce réalisateur Ryusuke Hamaguchi, donc, est très en vogue actuellement, et son film Conte du hasard et autres fantaisies, c'est en fait 3 courts-métrages qui sont assemblés l'un à l'autre et qui forment un long métrage. Un triangle amoureux inattendu, une tentative de séduction qui tourne mal, et une rencontre née d'un malentendu, la trajectoire de 3 femmes qui vont devoir faire un choix. Voilà, ça, c'est les 3 thèmes de ces 3 courts-métrages. Alors, là, l'unanimité totale pour ce film, Conte du hasard et autres fantaisies. On commence par Sophie Joubert, l'humanité. On croirait une scène de théâtre, vous savez, je confirme, un plateau dépouillé où le verbe est au premier plan. Il faut une grande confiance en ses interprètes et en l'histoire qu'on raconte pour tenir le spectateur en haleine avec un récit de plusieurs minutes à l'arrière d'un taxi, sans autre image que le visage des actrices en gros plan et en champ contre champ. Alors là, c'est tout à fait ça. Adrien Gombeau, Les Échos, les contes du hasard se déploient dans toute leur majesté en une œuvre riche, sensuelle et attachante. Thierry Chaise dans West France parle d'une grâce absolue. Marie Sauvion dans Télérama, riche de tant de mots qui excitent, caressent, blessent, pèsent ou délivrent, Conte du hasard et autres fantaisies ménage une surprise permanente et permet à son auteur de briller encore une fois par sa splendide direction d'acteur et la netteté de sa mise en scène. Caroline Vier dans 20 minutes, les 3 histoires qui composent ce film ont en commun une écriture très fine et un caractère romanesque assuré. Sans oublier le talent rare de Ryusuke Hamaguchi de toujours parvenir à capter le mystère de figures féminines pourtant insaisissables. Antoine Desrues dans Écran large, 3 fois plus d'Hamaguchi pour 3 fois plus de plaisir. Conte du hasard et autres fantaisies est une superbe ballade romérienne, Éric Rohmer, hein, dont la sobriété n'a d'égal que son absolue beauté. Le Parisien, il n'en demeure pas moins un ensemble merveilleux, profond, entre joie et tristesse, encore une pépite du nouveau maître du cinéma japonais. J'aurais pu en citer d'autres dans le même genre de ces critiques pour ce film Conte du hasard et autres fantaisies. C'est un film très romérien, oui, je reprends l'adjectif, et pas qu'à cause de son titre, Conte du hasard, qui fait référence au fameux Conte Moreau d'Éric Rohmer, mais surtout à cause de son style très voisin de celui donc de l'auteur de, par exemple, Pauline à la plage. Ici donc, 3 contes successifs sur le thème du hasard et des coïncidences. Alors, peu d'acteurs, hein, essentiellement des face-à-face et des dialogues entre eux, souvent filmés en gros plan fixe ou en champ contre champ. Ce qui compte, en fait, ce sont les 3 récits, indépendants les uns des autres et leurs personnages respectifs. Ça n'est pas du tout spectaculaire, ça ne vise d'ailleurs pas à l'être, hein. Il s'agit d'évoquer des rapports amoureux. Tout tient dans tout ce qui est dit. À partir de là, eh ben, soit on rentre ou pas dans ces histoires de désir qui sont avant tout des portraits, surtout féminins, mais pas que. Il y a aussi 1 ou 2 hommes dans ce film avec des mini-rebondissements. Je dis des mini-rebondissements parce qu'on n'est pas dans un suspense avec des gros rebondissements. Non, il y a des mini-rebondissements. Alors, on peut s'y ennuyer ou trouver cela subtilement écrit, c'est selon son goût. Moi, je suis un petit peu entre les deux. Je suis moins dithyrambique que la majorité de la critique parce que scénaristiquement, j'apprécie l'écriture, mais c'est beaucoup moins le cas dans la façon de filmer qui est hyper statique, vraiment, hein, des plans fixes, des champs contre champs. Ce serait d'ailleurs parfait au théâtre. C'est pour ça que je le soulignais dès les premières critiques du journal L'Humanité. Ça ferait une belle pièce de théâtre avec 3 actes pour 3 histoires différentes. Voilà. En attendant, vous pouvez le voir au cinéma au cinéaste avec donc deux séances par jour au cinéaste. Je le répète, Abuela, Abuela, c'est au Méga CGR, c'est au Pathé Quinconce. C'est nulle part en VO, ben non, même le Pathé Quinconce ne s'est pas décidé à faire une séance en VO. Et ça n'est même pas dans la semaine du cinéma hispanique, parce que c'est pourtant un film espagnol. Oui, la semaine du cinéma hispanique, elle continue au cinéaste. Alors, c'est un film de Paco Plaza. Paco Plaza, ben, les amateurs de films fantastiques le connaissent à cause de la trilogie REC, hein, R-E-C. Et c'était pas mal du tout comme trilogie REC. Et puis, il avait réalisé aussi un film qui s'appelait Véronica récemment. Voilà donc le film de Paco Plaza, Abuela, c'est interdit au moins de 12 ans. Le titre original, c'est La Abuela. On ne sait pas pourquoi on a fait sauter le La en France. Ça veut dire la grand-mère. Hein. Mm-hmm. Voilà, c'est comme ça. Susana, un jeune mannequin espagnol, est sur le point de percer dans le milieu de la mode parisienne. Mais quand sa grand-mère est victime d'un accident la laissant quasi paralysée, Susana doit rentrer à Madrid dans le vieil appartement où elle a grandi afin de veiller sur celle qui constitue son unique famille. Alors qu'approche leur anniversaire commun, de vieux souvenirs ressurgissent en parallèle d'événements étranges et le comportement de sa grand-mère devient de plus en plus inquiétant. Alors, 20 minutes, Carole Nivier, Abuela privilégie une atmosphère angoissante plutôt que des effets gore pour faire frissonner le spectateur. Jean-François Roger, Le Monde, Paco Plaza, en virtuose des effets de terreur, construit avec économie et savoir-faire les conditions d'un dérèglement qui prend place dans un décor quasi unique, un appartement bourgeois, dont chaque pièce, chaque porte, chaque couloir semble contenir une menace voilée. Ludovic Béot, Les Inoccupables, Abuela initie un conte sur le désir de jeunesse éternelle, motif connu du cinéma d'épouvante. Sans dévier de ce commentaire, le film se double d'un regard aussi déchirant qu'effrayant sur la dégénérescence d'un corps et la douleur de ne plus reconnaître un être proche. Frédéric Strauss Télérama, loin de vouloir révolutionner le cinéma fantastique, Abuela en revisite avec soin le pouvoir de fascination. Il n'y a que Camille Levert dans Libération qui n'a pas apprécié, malgré les qualités de mise en scène, d'ubiquité captive, on a vite fait le tour du propriétaire. On cherche dans le tapis une image plus sépulcrale, il n'y a pas de double fond thématique, variation trop claire autour de la peur de vieillir comme de la répulsion face au, au naufrage, au stigmate de la maladie. Abuela, interdit moins de 12 ans, méga CGR, Pathé Quinconce. Eh bien, j'ai vu Abuela, oui. Susana, donc, c'est un jeune mannequin espagnol qui vit à Paris et dont la carrière pourrait enfin vraiment décoller. Mais elle est appelée, car sa grand-mère, qui l'a élevée, ses parents étant disparus dans un accident, sa grand-mère, qui l'a élevée, a été hospitalisée à la suite d'un AVC. Alors aussitôt, Susana se rend à Madrid et ramène sa grand-mère dans sa maison, plutôt dans son appartement, pour s'occuper d'elle. Très vite, des phénomènes inexpliqués se produisent et ces phénomènes mettent en péril l'équilibre psychique de Susana. Donc c'est un film fantastique, c'est fort bien troussé avec un réalisateur qui sait faire monter l'angoisse parce qu'il a un vrai savoir-faire. Les cadrages, la lumière, la musique, tout ça c'est très étudié et ça concourt à créer une atmosphère vraiment anxiogène qui fout la frousse, flippante comme vous voulez. Voilà. C'est un film qui aborde aussi de façon singulière des thèmes comme la fin de vie, la dépendance, le rôle des aidants et leur impuissance face à l'inéluctable dégradation d'un être cher, et ces thèmes sont abordés à travers un film de genre. Alors, pas d'effet gore, ou alors très très peu, vraiment, pas de jumpscare, hein, on n'essaie pas de vous faire sursauter, juste une angoisse qui monte, comme on le disait tout à l'heure, inexorablement. Voilà, alors évidemment, l'épilogue en laissera certains sur leur fin, il n'y a pas de véritable explication des phénomènes auxquels on a assisté, si ce n'est qu'on peut interpréter cela comme une forme de sorcellerie, de magie noire, de volonté de prolonger la vie. En tout cas, c'est un film à voir, parce que beaucoup plus subtil que le lot habituel des films d'horreur actuels, les films d'horreur horreur fantastique. Et puis, à noter la prestation de haute qualité des deux actrices principales. Mais là aussi, c'est peut-être un petit poil trop long, mais il faut aimer les films d'horreur. Et c'est pas forcément un film qui va plaire aux jeunes qui aiment Conjuring et compagnie, parce que c'est pas du tout le genre de film qu'ils font et qui cherchent à faire sursauter le spectateur. C'est juste à faire monter une angoisse.
Bah, c'est quand même interdit au moins de 12 ans.
C'est interdit au moins de 12 ans, oui. Mais je pense pas que ce soit un film qui puisse intéresser les ados qui d'habitude sont friands des films genre Conjuring et compagnie. Voilà, ça s'appelle Abuela. C'est au Méga CGR, c'est au Pathé Quinconce et il n'y a pas de VO. Voilà. Donc, avant de vous annoncer les films à l'affiche la semaine prochaine, eh bien, il n'y a que dans Clap qu'on peut passer Johnny Hallyday, Nina Hagen et du Vivaldi.
Bon, bah, j'aime bien Vivaldi.
Eh ben, ouais. C'est très inhabituel chez Vivaldi. Vous
c'est pas voir, les quatre saisons.
Ah, pas du tout.
Non.
Ça s'appelle Nisi Dominus per Chalumeau. C'est un titre que l'on entend à plusieurs reprises dans le film Inexorable. Et là, vous avez le bonheur de l'écouter sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans. C'est très inhabituel dans le style Vivaldi, quand même. Et non, vous n'êtes pas sur Radio Classique ou France Musique, vous êtes bien sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans, et c'est Clap qui vous propose du Vivaldi. Alors c'est pas le caracolant Vivaldi des 4 saisons, mais c'est du Vivaldi Nisi Dominus. Voilà, et bien ce titre on l'entend à plusieurs reprises dans le film de Fabrice Duvels, Inexorable. Les films à l'affiche la semaine prochaine, et bien on va déjà commencer par ce soir si vous nous écoutez en direct, parce que au cinéaste vous pourrez voir Soy Cuba dans le cadre du festival hispanique. Alors c'est pas une nouveauté Soy Cuba, hein. C'est un film de 1964, mais c'est une version remasterisée en 4K et c'est proposé ce soir à 20h en présence du distributeur du film. Donc vous pourrez poser toutes les questions que vous voudrez sur le métier de distributeur. Je répète, vendredi 8, 20h au cinéma. Les cinéastes, comme de coutume pendant les vacances scolaires, vont avoir une programmation spéciale pour les petits-enfants à partir de demain. Et vous pourrez voir de nombreux programmes à partir de 3 ans. Le Grand Jour du Lièvre, C'est Magique de père en fils, C'est Magique sucré-salé, C'est Magique à la baguette, C'est Magique tout feu tout flamme. Et puis aussi Icar, un dessin animé qui était sorti la semaine dernière et qui est donc proposé à partir de samedi. Et puis aussi Mystère et d'autres. Et puis il y a donc, c'est toujours aussi la semaine hispanique qui se poursuit au cinéaste. Et puis, pour ce qui est des avant-premières, eh bien, il y a Les Animaux Fantastiques 3, Les Secrets de Dumbledore. Et là, vous avez les avant-premières. Alors, il me semble qu'il y en a déjà dimanche, mais je n'en suis pas sûr, ça, c'est à vérifier. Mais en tous les cas, il y en a à coup sûr mardi 12. Alors, au pâté, c'est à 19h20 en VO et à 21h en VF. Au Méga CGR, c'est à 13h45 et à 20h. Et au Colisée, c'est à 13h45 et 19h45. Oui, 13h45, parce que c'est un film qui plaît aussi aux enfants et aux adolescents. Et ils sont en vacances. Voilà, donc Les Animaux Fantastiques 3, Les Secrets de Dumbledore. Ça dure 2h23. Je ne suis pas sûr que Pierre ira voir ça.
Bah, c'est un peu long,
moi,
oui.
Moi, c'est sûr que je n'irai pas le voir. J'ai vu les deux premiers. Moi, ça ne m'intéresse pas du tout. Donc, ce n'est pas la peine de voir le troisième.
Pour les enfants, ça fait long quand même.
C'est plutôt les ados quand même.
Ah oui, quand même. Oui, quand même.
Alors, les films autrement qui sortiront le 13, la revanche des crevettes pailletées. Ben oui, les crevettes pailletées, on les avait découvertes il y a quelques années de cela. Cette équipe de waterpolo gay, eh bien, c'est leur retour avec la revanche des crevettes pailletées. Autre film qui est une comédie, alors je ne sais pas si ça va pas être un peu gros comme comédie, Les Gagnants avec Joestar, Alban Ivanov. C'est pas forcément subtil. Et puis les cinéastes vont vous poser Vortex de Gaspard Noé. C'est toujours intéressant le film de Gaspard Noé, mais il fait 2h22 quand même. Hein. Bon. Sinon, à l'ombre des filles d'Étienne Comard avec Alex Lutz, à Chiara, un film italien qui était déjà sorti en avant-première au moment de la Tutti al Cinema de la semaine italienne, et puis Sous l'aile des anges. Voilà, donc les films dont nous parlerons la semaine prochaine, plus peut-être quelques autres qui vont sortir derrière les fagots. Pour nous, cette semaine, eh bien, il y a à coup sûr à voir Qu'est-ce qu'on a tous fait au bon Dieu ?
Ouais, je suis d'accord. Oui. Si vous aimez rire, allez-y.
Exactement. Et puis, dans un autre genre, une autre comédie, en même temps. Puis, alors, pour le cinéma très, on va dire, intello, c'est pas péjoratif, forcément. Hein. Les contes fantastiques, enfin, fantasy, les contes de... Je sais pas, le titre ne me revient pas, ça y est, je le cherche. Contes du hasard et autres fantasy. Voilà. Sur ce, bien, on va vous souhaiter une excellente semaine cinématographique et nous, on se retrouve donc la semaine prochaine sur
Apple Podcasts. Oui, on n'est pas en vacances, nous.
Et non, on n'est pas en vacances.
Au revoir.